Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1 et vous avez la parole. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une la condamnation à l'instant de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Jean-Marc Reiser condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. On va retrouver Gladys Laffitte en direct de Strasbourg dans un instant. Les résultats du bac 2022, on se dirige vers une baisse au niveau national. Wilfried de Villers devant un lycée parisien. Le projet de loi pouvoir d'achat au menu d'une réunion de travail ce matin à l'Élysée. On verra vers quoi on se dirige avec Jacques Serret en direct avec nous. Geoffrey Branger nous dira que Bercy veut autoriser les grandes surfaces à faire des promotions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Des enfants de djihadistes français et leurs mères rapatriés en France par le gouvernement. Les informations de Louis Dragnel qui sera avec nous. Et de tout cela, on va parler avec vous au 39-21 bien sûr. Et avec Otmane Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, porte-parole des Républicains. Bonjour Otmane Nasrou.
Bonjour.
Et avec Céline Calvez. Bonjour madame la députée, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.
Bonjour,
bonjour également et à tout de suite.
Europe 1.
Gladys Laffitte en direct avec nous du Palais de Justice de Strasbourg. Gladys, Jean-Marc Reiser a donc été condamné il y a quelques instants à la perpétuité et à 22 ans de sûreté pour l'assassinat de Sophie Le Tan.
Oui, c'était la peine maximum encourue par Jean-Marc Reiser. 22 ans de sûreté, ça veut dire une période pendant laquelle il ne pourra pas faire de demande d'aménagement de peine. À l'énoncé de cette condamnation, l'accusé a légèrement fermé les yeux. Du côté des bancs des parties civiles, on a entendu des soupirs de soulagement, mais pas de réaction du côté de la famille. La consigne avait été passée de rester discret en cas de verdict favorable. En tout cas, Jean-Marc Reiser a été reconnu coupable d'assassinat de Sophie Le Tan. C'était conforme au réquisition après un petit peu plus de 2 heures de délibéré, ce qui est vraiment assez rapide. Ça veut dire que vraiment la version de Jean-Marc Reiser n'a pas convaincu le juré, celle d'un coup de sang pour assassiner Sophie Le Tan. En tout cas, l'avocat général avait dénoncé un piège qui était prémédité. Sophie Le Tan n'était qu'une proie, avait-il dit hier. Voilà, maintenant Jean-Marc Reiser a 10 jours pour faire appel de cette condamnation.
Gladys Laffitte en direct de Strasbourg. Merci Gladys. C'est le grand jour pour plus de 700 000 lycéens, le jour dont on se souvient toute sa vie, normalement, la découverte des résultats du baccalauréat. Ils sont en ligne depuis 8 heures ce matin ou 10 heures selon les académies, mais beaucoup de candidats font le choix de se rendre directement devant le lycée où ils ont passé leurs épreuves pour connaître le verdict. Wilfried de Villers, vous êtes devant un établissement parisien. Bonjour Wilfried.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Et vous assistez depuis ce matin à des scènes de joie et parfois de déception.
Oui, écoutez, moi ce matin, c'était plus des scènes d'excitation, de joie, je dois dire. Il y avait beaucoup d'appréhension avant les résultats et puis enfin la libération, la fin du suspense.
Bonsoir, c'est bien, let's go.
J'ai la mention bien, gamin.
Très bien.
Et voilà, et puis il y avait donc Mireille qui est sortie du lycée, grand sourire aux lèvres, avec tout de même une petite déception.
Je suis à 0,23 points de la mention très bien. Bon, avoir le bac, c'est quand même l'essentiel. La mention, ça reste quand même un petit supplément.
Voilà. Olivia, elle aussi, a une mention dans la poche et des matières où elle a fait carton plein.
SES, Géopo, Grand Oral, c'est où j'ai eu les meilleures notes. Ma pire note, c'est en philo.
Tu t'en es bien sortie du coup?
Oui, j'ai eu mention très bien.
Mention très bien pour Olivia, assez bien pour Camille, mais qu'à cela ne tienne, elle repart tout de même Camille avec le précieux sésame, ses parents sont enchantés.
Ils pensaient que j'allais pas avoir le bac, mais ils sont super contents. Je les ai appelés, ils étaient trop contents, ma mère elle a pleuré carrément. Donc, non mais ils sont contents pour moi.
Et voilà, et puis les résultats du bac riment surtout avec fin de l'année et fin du lycée.
Oui,
les résultats, on a le bac, donc c'est les vacances.
Des vacances bien méritées qui ont déjà commencé. Le parvis du lycée où je suis, c'est déjà complètement vidé.
Merci beaucoup Wilfried de Villers. Voilà, j'étais pressé. Wilfried de Villers devant un lycée parisien pour Europe 1. Et même si la découverte des résultats du bac est toujours un moment important, il est vrai que le taux de réussite, il faut le noter tout de même, ne cesse de croître chaque année. L'année dernière, 94% des lycéens avaient obtenu le bac. Ceci dit, il y a quelques minutes, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que les premiers indicateurs faisaient état d'une baisse du taux de réussite. On le connaîtra ce soir, le taux de réussite au bac. C'est le premier texte important porté par le gouvernement Borne 2, celui sur le pouvoir d'achat face à une inflation qui ne cesse de grimper. Les ministres concernés par ce projet de loi sont réunis à l'Élysée. Vous êtes sur place, Jacques Serret. Et bonjour Jacques.
Bonjour.
Sur quel dispositif le gouvernement travaille-t-il ?
Eh bien, plusieurs mesures sont sur la table. Il y a d'abord la revalorisation des prestations sociales, pensions de retraite et d'invalidité, allocation solidarité aux personnes âgées, prestations familiales, RSA ou encore allocation adulte handicapé. Le projet de loi prévoit pour chacune de ces aides une hausse de 4%. Le gouvernement planche également sur la mise en place d'un bouclier logement. La hausse des prix des loyers ne pourrait pas excéder 3,5%. Les APL seraient augmentées dans cette même proportion. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a également soumis l'idée d'autoriser davantage les promotions dans le secteur de l'alimentation, permettre de nouveau les promos à moins 50%. Enfin, face à la hausse des prix de l'énergie, ce projet de loi comprend la prolongation de la remise de 18 centimes d'euros par litre d'essence, prolongation jusqu'à fin août ou jusqu'à la fin de l'année. C'est l'un des points à trancher, alors qu'il est question également de la mise en place d'une indemnité kilométrique pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler.
Et Jacques, cette séquence, comme on dit, c'est aussi un premier test pour le camp présidentiel qui ne peut plus compter sur une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va falloir désormais trouver des compromis. Hein.
Oui, ce texte doit arriver le 18 juillet à l'Assemblée dans deux semaines et les oppositions font déjà connaître leurs propositions, ou plutôt leurs conditions pour soutenir ce projet de loi. Les Républicains ont adressé une lettre à la Première ministre pour lui indiquer qu'ils jugeaient indispensable une baisse des taxes sur les carburants pour garantir un prix maximum à 1,50€. Le litre. Les LR souhaitent également une baisse des charges pour revaloriser le travail et l'annulation de la hausse de la CSG pour l'intégralité des retraites. Trois mesures sans lesquelles ils menacent de ne pas voter ce projet de loi. Pendant ce temps, l'Alliance de gauche s'apprête à reprendre des mesures du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Blocage des prix, augmentation du SMIC à 1 500 € net. Quand le Rassemblement national plaide lui pour une baisse de la TVA sur les carburants et sur plusieurs produits de première nécessité. Bref, c'est loin d'être gagné pour le gouvernement. Sans majorité absolue pour Elisabeth Borne et ses ministres. Il va falloir composer avec ses oppositions. C'est la nouvelle donne de l'Assemblée.
Jacques Serret en direct de l'Élysée. Merci Jacques. Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'économie, reçoit en ce moment la FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs, les JA. Au cœur des discussions, les prix dans la grande distribution et la rémunération des agriculteurs en pleine vague d'inflation. La loi Egalim a été mise en place pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Mais Geoffrey Branger, bonjour.
Bonjour Romain.
Les producteurs s'inquiètent de l'application de cette loi. C'est là-dessus que portent les échanges qui se déroulent en ce moment au ministère de l'économie. Hein.
Oui, et d'ailleurs, l'objectif de Bercy, c'est que les producteurs ne deviennent pas une variable d'ajustement des prix. Hein. Le ministre de l'économie veut d'abord les rassurer. Il a chargé l'inspection générale des finances de vérifier que les lois Egalim et Egalim 2 sont bien respectées. Ce sont des textes qui sont censés garantir des revenus décents aux agriculteurs. Par exemple, la loi impose aux distributeurs de reverser un minimum de 10% de marge aux producteurs. Mais pour Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui est en ce moment même avec Bruno Le Maire, il y a eu des irrégularités et elle demande à ce que la lumière soit faite.
600 millions d'euros auraient dû transiter par les industriels pour revenir dans la poche des agriculteurs. Donc les distributeurs devaient partager. Or, ils n'ont pas partagé.
Pour faire baisser les prix dans les rayons, les enseignes de grande distribution proposent, elles, de réduire les marges des producteurs. Une option que Bruno Le Maire a déjà exclue. En revanche, pour aider les consommateurs, le gouvernement veut relever le taux maximal des promotions. Aujourd'hui, elles sont plafonnées à 34% du prix de vente. Le ministre de l'économie voudrait que les distributeurs puissent offrir des réductions de 50%. Une proposition catastrophique pour les syndicats d'agriculteurs qui ne manqueront pas de le dire au ministre de l'économie. Ils estiment que ni les distributeurs ni les industriels ne rogneront sur leur marge pour compenser ces baisses et donc que ce coût sera répercuté sur les agriculteurs.
Geoffrey Branger, merci Geoffrey. C'est le problème majeur auquel sont confrontés les professionnels du tourisme. Cet été, on en a beaucoup parlé dans Europe Midi. Le manque d'effectifs, 150 000 postes sont toujours vacants alors que l'on est déjà entré dans la saison des grandes vacances. Alors quand les ressources ne sont pas suffisantes en France, bien les patrons d'hôtels ou de restaurants se tournent vers l'étranger. Un accord a par exemple été trouvé la semaine dernière entre l'UMI, le syndicat des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie en France, et la Tunisie. 4000 saisonniers tunisiens peuvent désormais être recrutés pour travailler dans l'Hexagone. Alors comment cette nouveauté est-elle accueillie sur place? Écoutez ce reportage Europe 1 près de Tunis de Thibaut Hu.
sur une terrasse discrète à l'ombre des palmiers. Six tables noires longent une baie vitrée. Dans ce restaurant italien de La Marsa, une ville à 15 km de la capitale, Youssef, serveur, tient son plateau à deux mains. Il n'a pas encore candidaté au poste de saisonnier ouvert par la France, mais il compte bien partir bientôt.
Ici, je n'ai pas assez d'argent pour vivre. Il y a des amis, il est parti en France, il m'a dit qu'un seul jour, Manette, tu prends 100, 150 euros.
Avec un salaire de 700 dinars hors pourboire, soit 218 euros par mois, à peine de quoi vivre, il rêve de décrocher l'un des CDD de 5 mois, tout comme Skender, le pizzaïolo qui vise en plus un meilleur poste.
En Tunisie, tu prends le BTS, tu restes commis. En France, tu prends le BTS junior sous-chef.
Alors le patron, Assis Galadou, qui a déjà perdu un mètre de salle parti en France, est très inquiet pour son restaurant. Il dénonce une concurrence déloyale.
On va se retrouver donc sans employés. Donc après la corona, on a passé deux ans pratiquement donc, sans tourisme, sans hôtellerie. Pratiquement donc, après la reprise, donc la France... annonce cette nouvelle, qui est pour moi vraiment elle est catastrophique.
Alors pour faire face, le restaurateur tente d'augmenter les salaires dans la mesure de ses moyens, d'environ une vingtaine d'euros par mois. Mais il sait que certains de ses employés tunisiens se laisseront tenter par le niveau des salaires français. À La Marsa, près de Tunis, Thibaut, Europe 1.
C'est un sujet hautement sensible diplomatiquement, mais également vis-à-vis de l'opinion publique. 35 enfants et 16 femmes de djihadistes de nationalité française ont été rapatriés dans l'Hexagone. Le ministère des Affaires étrangères l'a annoncé ce matin. Tous se trouvaient jusqu'ici dans des camps de prisonniers du nord-est de la Syrie. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Rapatrier des enfants et leurs mères n'était pas jusqu'à présent la doctrine de la France. Hein.
Oui, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la rupture de la politique de la France. Jusqu'à aujourd'hui, les retours d'enfants de djihadistes se faisaient au cas par cas, une stratégie contestée par certaines associations qui réclamaient leur retour inconditionnel accompagné de leur mère, peu importe leur implication au sein de l'État islamique. Donc désormais, pour la première fois, la France organise le retour d'enfants et de leur mère. Et selon nos informations, ce changement de stratégie de la France a fait l'objet d'intenses débats internes au sommet de l'État entre ceux qui considèrent qu'ils doivent rester et être jugés sur place et d'autres qui pensent que la France doit tous les faire revenir. Alors dans le détail, on parle du retour de 51 personnes qui étaient détenues par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, 35 mineurs dont 7 mineurs isolés, 16 femmes âgées de 22 à 39 ans, toutes sont françaises, sauf deux dont les enfants ont la nationalité française. 8 femmes ont été placées en garde à vue, tout comme un seul des 35 mineurs âgés de 17 ans, soupçonnés d'association de malfaiteurs terroristes. Sous la supervision du parquet national antiterroriste, tous seront suivis par la Direction générale de la sécurité intérieure et les mineurs seront pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, un suivi très compliqué en raison des atrocités qu'ont vécues et parfois commises ces enfants. Pour terminer, ces 35 mineurs s'ajoutent aux 126 déjà rapatriés en France depuis 2016. Avant ce dernier rapatriement, il restait près de 200 mineurs et 80 mères dans les camps du nord-est syrien contrôlés par les Kurdes.
Louis Dragnel, merci Louis. Cette information tombée ce matin, deux professeurs du même collège de Tarbes retrouvés morts, tués par balle dans un village des Pyrénées. Le corps de la femme de 32 ans a été découvert en pleine rue. L'homme âgé, lui, de 55 ans, est décédé dans sa maison quelques mètres plus loin. L'auteur présumé, dont on ne connaît pas l'identité, est en fuite et reste introuvable pour le moment. Un Français vient de recevoir la médaille Fields. C'est l'une des distinctions les plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse, pour les mathématiciens. Elle récompense chaque année des découvertes exceptionnelles de chercheurs âgés de moins de 40 ans. Et parmi les trois lauréats de cette année, 2022, Hugo Duminil-Copin. Hugo Duminil-Copin, on va retenir ce nom. Hein. 36 ans, il est professeur depuis ses 29 ans entre Paris et Genève. Laure d'Autriche, bonjour Laure.
Bonjour.
Il a un vrai goût pour le partage de ses connaissances.
Ah hein. Oui, et sa spécialité, c'est d'étudier des phénomènes physiques, mais d'un point de vue mathématique. Et à propos des maths, Hugo Duminil-Copin dit « c'est le plaisir de jouer avec son cerveau ». Il est professeur à l'Institut des hautes études scientifiques à Paris et puis il aime cette vie de chercheur, cette lenteur dans le quotidien, parce qu'il explique qu'il a besoin que les idées viennent, qu'elles décantent tranquillement, qu'elles prennent forme. C'est un parcours brillant aussi, classe prépa au lycée Louis-le-Grand à Paris, élève à l'école normale supérieure, agrégation de mathématiques. Au début, il voulait seulement être prof de maths, avant de sentir qu'il avait aussi besoin de faire de la recherche. Enfant, il adorait l'astronomie, il faisait du sport, de la musique, et puis il a finalement choisi les maths. Il répond ici à une interview en anglais.
J'aime la physique parce que c'est une sorte d'étude du monde, de ce qui nous entoure. Et j'aime les mathématiques parce qu'il y a une sorte de beauté lorsque vous terminez, lorsque vous tenez la solution d'un problème. Il y a quelque chose de très pur que je trouve satisfaisant.
Alors beaucoup de ceux qui l'ont entendu faire un cours expliquent qu'il déroule son cours d'une manière très fluide, très accessible sur le tableau à la craie. Il fait parfois plus de dessins que de formules mathématiques. Et quand on demande à Hugo Duminil-Copin comment lui viennent les idées, il répond n'importe quand, en pleine nuit ou sous la douche.
Merci beaucoup Laure d'Autriche. Voilà, il y avait Cédric Villani qui avait également reçu la médaille Fields il y a désormais. Hugo Duminil-Copin, voilà, on va retenir son nom. Du foot, à présent, il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, promettait la fin des paillettes à Paris. Fini les superstars, pas assez impliqués au PSG donc. Et l'arrivée du nouveau coach du club est peut-être une illustration de cette nouvelle ère. Christophe Galtier, ancien entraîneur de Nice et de Lille, notamment, s'engage pour 2 saisons. Cyril Delamorinerie avec nous, bonjour Cyril.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement au Paris Saint-Germain, la nomination de Christophe Galtier?
Mais d'abord, c'est un entraîneur français. Il faut quand même le dire, un entraîneur français qui va entraîner le meilleur club français actuel. Au PSG, c'est une première depuis 7 ans et Laurent Blanc. Contrairement à Tourelle et Pochettino, eh bien Galtier a une connaissance parfaite du championnat et de ses joueurs. Le technicien de 55 ans est élu 3 fois meilleur entraîneur de Ligue 1. Il a remporté le championnat avec Lille, la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne. Autre changement, bien des conférences de presse dans la langue de Molière. Pochettino, lui, ne s'exprimait qu'en espagnol. Et puis, Christophe Galtier, c'est un véritable meneur d'hommes. Alain Perrin peut le confirmer. Le nouvel entraîneur du PSG a débuté à ses côtés à Lyon et à Saint-Etienne. Et il a toujours su se faire apprécier de ses joueurs.
C'est quelqu'un d'humeur égale, qui est joyeux, qui est très communicant et c'était très appréciable de travailler avec lui. C'est un garçon très positif. Il a obtenu des résultats supérieurs à ce qu'on pouvait attendre de l'effectif dont il disposait. C'est la suite logique des clubs qu'il a entraînés. Le plus grand club de France actuel.
Alain Perrin avec Jacques Vendroux. En tout cas, c'est effectivement le début d'une nouvelle ère à Paris avec un nouveau duo, Galtier et Luis Campos à la tête du sportif. Un Kylian Mbappé avec des responsabilités élargies. Objectif pour Christophe Galtier, gagner des trophées, briller en Ligue des Champions et puis donner au PSG un style plus séduisant que par le passé.
Merci beaucoup Cyril. Voilà, et Christophe Galtier sera présenté cet après-midi au Parc des Princes.
À 14h, nous y serons avec Jacques Vendroux.
Voilà, conférence de presse prévue à 14h et Cyril y sera avec Jacques Vendroux. La météo à présent, Marlène Duret avec nous. Beaucoup de soleil aujourd'hui Marlène.
Absolument, Romain, du soleil pour la plupart d'entre nous, avec seulement quelques nuages sans conséquences qui pourraient circuler sur le nord de la Bretagne, sur la pointe du Cotentin, de la Seine-Maritime, au Hauts-de-France et aux Ardennes. Le ciel est un peu plus variable du côté des Pyrénées, au pied des Pyrénées, avec sur le relief des orages attendus en fin d'après-midi et qui pourraient déborder sur la plaine roussillonnaise. À noter enfin les vents avec lesquels il va falloir composer en ces temps de sécheresse et de forte chaleur, jusqu'à 34 à 39 degrés du Languedoc-Roussillon à la Provence et à la Corse. Ailleurs, elles sont plus raisonnables avec le plus souvent 23 à 29 degrés, noté 27 dans la capitale.
Merci Marlène, il est midi 18, restez bien avec nous, le pouvoir d'achat, le bac, tiens, les restaurateurs qui vont embaucher en Tunisie, on va en parler avec vous au 39-21 et avec Othmane Nasrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, porte-parole des LR, et avec Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. À tout de suite.